Sébastien Lévesque, comment vas-tu?
Ça va très bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien et j'en profite pour vous annoncer que notre très attendue saison 8, ayant pour thème les Rabbit Holes, débutera le 4 octobre prochain sur toutes les plateformes.
Mais si vous êtes un membre Patreon, où que vous soyez dans le monde, elle débutera en avance, soit le 27 septembre. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement à abonnement mensuel qui vous donne accès à du contenu exclusif de Distorsion et à tous nos épisodes en avance, le tout sans publicité. On vous offre deux forfaits exclusifs pour nous supporter.
À 3 $ canadiens par mois, vous avez accès au forfait Distordu, qui vous offre un shout-out dans un épisode, l'accès au serveur Discord VIP, accès aux épisodes réguliers en avance, accès aux épisodes bonus en avance, 10 % de rabais sur la boutique, et ce, à chaque mois.
On a aussi le forfait Oui, monsieur! À 8 $ canadiens par mois, vous obtenez tout ce qui est inclus dans le forfait Distordu. Vous avez en plus accès à du contenu exclusif qui est dédié à ce forfait, comme un after-show après chaque épisode, des interviews, des discussions off the record, etc. Vous avez aussi également accès à un épisode secret par saison, sans parler que vous avez accès aux épisodes secrets des saisons précédentes. Également, vous avez 20 % de rabais sur la boutique à chaque mois.
Rendez-vous au patreon.com/distorsion pour vous abonner et devenir des commanditaires officiels de Distorsion.
On vous remercie énormément de votre soutien et bonne écoute.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
301, everything 10-4?
Negative. I have that subject in the kitchen in a freezer. She is frozen solid.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Septembre 2017, l'Internet est secoué par la disparition de Kenica Jenkins, une jeune femme de 19 ans, disparue après une fête dans une chambre d'hôtel.
La consternation est encore plus grande lorsque, 24 heures plus tard, elle est retrouvée morte dans le congélateur de l'hôtel.
D'étranges vidéos de surveillance, ainsi que des publications sur Snapchat et Facebook, soulèveront encore plus de doutes sur ce qui s'est réellement passé cette soirée-là.
S'agit-il d'un meurtre, d'une conspiration ou d'un réel accident? Suivez-nous au cœur de cette histoire à la fois lugubre et captivante. Sébastien Lévesque, comment vas-tu?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien. Presque déjà la fin de notre saison 4.
Oui, ça approche. Hein?
Oui, il nous reste 3 épisodes, donc celui-ci et 2 autres.
Ouais,
mais faites-vous-en pas, on a des bonus aussi.
Oui, surprise.
Exactement. Rappelez-vous qu'on a un livre qui sort le 20 février, le livre de Distorsion illustré par Ron, 13 histoires étranges de l'ère numérique. Ça sort le 20 février et on est bien excités par ça.
Oui, vraiment.
L'histoire d'aujourd'hui, en plus, est assez captivante.
Oui.
Kenica Jenkins, vous nous avez demandé souvent de le faire, cet épisode-là.
Oui.
Et puis, on voulait attendre qu'il y ait un petit peu plus de développement.
Mm-hmm.
On se rappelle, c'est cette jeune fille de 19 ans de Chicago qui est disparue après un party dans une chambre d'hôtel de banlieue et qui a été retrouvée la journée d'après, décédée là, dans des circonstances vraiment étranges dans le congélateur de l'hôtel.
Oui. Congelé, là.
Oui. C'est une histoire qui a enflammé l'Internet en 2017. Il y a eu des développements depuis ce temps-là.
Ouais.
Donc, je pense que ce soir, on est en mesure de faire un bon portrait de la situation. Mais suivez-nous jusqu'à la fin parce que vous allez voir, il y a plein de rebondissements là-dedans. Ça donne lieu à plein de conspirations.
Ouais.
C'est une des histoires récentes. Ça nous fait penser un peu à Elisa Lam.
Oui.
Étant donné que, bon, les circonstances de la disparition et de la mort sont un peu similaires. Vous allez voir, il y a des drôles de vidéos de surveillance croyances aussi qui ont fait surface, des publications sur les réseaux sociaux. On va faire le tour de tout ça. Mais ça fait penser un peu dans ce cas-là, ça fait penser un peu à celui d'Elisa Lam parce que, tu te rappelles, il y avait eu plein de conspirations qui étaient sorties comme quoi, peut-être, il y a une compagnie de technologie qui est liée à ça. Peut-être qu'il y a même une conspiration gouvernementale avec le vaccin d'Elisa Lam qui portait le vaccin qui était distribué dans Skid Row. Bref, qui portait un nom similaire. Et là, on retrouve un peu le même genre d'histoire avec Kenneka Jenkins. Il y a plein de conspirations qui sont nées de l'Internet. Ça va vraiment de tout bord, tout côté et plein d'hypothèses différentes.
Oui, exact. Et même, il y a énormément de similarités. Un corps qui a été retrouvé dans des circonstances étranges. Pas de traces de rien, pas de traces de meurtre. Donc, c'est vrai que les cas, quand on les met en parallèle, sont vraiment similaires. Là, puis sans vous donner trop de détails, on va y venir, là, mais vous allez voir. C'est un cas. Puis c'est un cas aussi que, comme on le sait, les cas qui enflamment l'Internet, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur le web et beaucoup de fausses informations.
Oui.
C'est un des cas que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de faussetés qui sont dites là, sur YouTube. C'est incroyable comment les gens reprenaient tout ça, créaient des nouvelles théories. Puis quand tu essayais de chercher le fondement de ces théories-là, il n'y en avait aucun. C'était jamais répété nulle part.
Les dates diffèrent d'une vidéo à l'autre.
C'est plus difficile pour nous parce qu'il faut vraiment faire un travail encore plus approfondi, puis vraiment s'assurer que nos sources soient bonnes. Vous allez voir aussi quand on a différentes sources, comme à l'habitude, on vous le mentionne aussi, quand on n'a pas les mêmes versions des faits selon un média ou l'autre.
Ça va être très intéressant.
Oui, vraiment.
Ce soir, pour nous accompagner dans cette histoire, on boit la catnip de la microbrasserie Le Noctem de Québec. Ça fait longtemps qu'on voulait en parler du Noctem. C'est une super bière, moi je l'adore.
Ouais, moi
c'est un de mes coups de cœur, je dirais, cette année, Seb. C'est une American IPA à 7,5% d'alcool, avec une texture un peu huileuse. Elle est bien aromatique, avec des notes herbacées en bouche, mais aussi là, des notes de mangue et de papaye. Vraiment une bière rafraîchissante et en même temps, très, très, très goûteuse.
Oui, vraiment. Puis c'est vrai, la texture huileuse, je sais pas c'est quoi dans la bière qui donne cette... Mais c'est vrai que c'est agréable en bouche, ça glisse bien, ça glisse bien dans la gorge.
Et cette bière-là de la semaine nous est offerte par Jean, qui nous a offert une tournée de bière via le distorsionpodcast.com. Donc, si vous voulez encourager le show, vous pouvez faire comme Jean et vous rendre sur notre site web et via l'onglet « Tournée de bière », nous offrir une bière de votre choix ainsi qu'une suggestion. Et comme d'habitude, nos bières viennent du Biérologue à Montréal, situé sur la rue Ontario, là, près du marché Maisonneuve, qui est ma boutique préférée, je crois, dans tout l'univers.
Aussi, on a un shout-out à maboucherieenligne.ca. Vous savez, maboucherieenligne.ca, c'est la place au Québec pour commander votre viande en ligne. C'est de la viande qui est coupée la semaine avant votre livraison directement de l'animal.
Des productions locales.
Oui, exactement. Production locale. Peu importe ce que vous habitez au Québec, c'est toujours dans un endroit dans les environs, pas un boucher, une ferme ou tout ça, qui vont fournir la viande. Ça arrive dans une glacière hyper congelée là, qui peut tenir quand même un certain temps. Et pour vous, les distordus, on a un code promo qui vous donne 5% de rabais pour votre première commande qui est Distorsion. Donc, maboucherieenligne.ca, n'hésitez pas à y aller.
Avec le code promo Distorsion, ça vous donne 5% de rabais. On a un shout-out aussi 5 étoiles sur Apple Podcasts qui nous vient de Mr. Frankenstein. Bravo pour le nom. Et il nous dit, addictif, il vient de la France. Il nous dit, le bonjour de Paris, j'ai écouté les 50 épisodes en 2 semaines. Bravo, c'est quand même rapide. Et force est de constater que c'est hyper addictif, riche, bien rythmé, chaleureux et intriguant. Distorsion est à déguster. Donc, merci à toi, Mr. Frankenstein. C'est pour des gens comme toi qu'on fait le show.
Je pense qu'on n'a plus rien à dire, mon cher Émile. On est prêt à se lancer dans l'histoire de Kenneka Jenkins.
Oui, monsieur. Allons-y.
On se retrouve le 8 septembre 2017 dans le West Side de Chicago, le côté ouest. Il est 23h30 et nous sommes dans la maison familiale des Martin et Jenkins. La famille monoparentale est constituée de Kenneka Jenkins, qui a 19 ans, de sa sœur aînée, Léonore Harris, ainsi que leur mère, Teresa Martin. Kenneka et ses 3 copines se sont toutes réunies pour la soirée et décident d'aller au cinéma un peu plus tard. Cependant, il y a d'autres sources qui nous indiquent plutôt qu'elles devaient célébrer le nouvel emploi de Kenneka. Donc, les trois copines en question sont Monifa Shelton, Irene Roberts et Shamaya Winder. Ils prennent alors place dans la voiture de la mère de Kenika. En cours de route, les plans changent et elle décide plutôt de se rendre à l'hôtel Crown Plaza Chicago O'Hare, qui est situé à Rosemont, qui est une banlieue, une petite banlieue de Chicago d'environ 4200 habitants, pour assister à la soirée d'anniversaire d'un autre ami. N'ayant pas, bien sûr, avec eux tout le matériel nécessaire pour une soirée festive, parce que selon une des sources, ils s'en allaient au cinéma. Sur le chemin de l'hôtel, ils décident de s'arrêter pour aller chercher chez un autre ami, aller chercher un haut-parleur Bluetooth, une bouteille de cognac de Hennessy et une boisson énergisante et, bien sûr, pour tout bon party, de la marijuana. Elle arrive enfin à l'hôtel où a lieu la fête vers environ 13h du matin. On est donc maintenant le 9 septembre. Le quatuor de filles se dirige alors vers l'ascenseur car la fête se déroule dans la chambre 926, qui est située donc au 9e étage. Un peu moins de 3 heures après leur arrivée, parce qu'on est environ vers 3h du matin, les filles sont fatiguées et veulent toutes rentrer à la maison. Elles quittent alors la chambre en direction de l'ascenseur. Une fois sur place, Kenika se rend compte qu'elle avait oublié plusieurs de ses effets personnels, dont son téléphone, dans la chambre. Ses amis lui offrent alors gentiment de retourner à la chambre pour les récupérer. Ce qui est quand même étrange, en fait, parce que pourquoi qu'elle n'est pas allée elle-même, je veux dire, je comprends pas pourquoi il fallait que ce soit elle qui attende à l'ascenseur. Déjà là, ça, ça...
Oui, mais non seulement ça, mais en plus, elles sont 4, hein, n'oublions pas. Oui. Donc, c'est Kenika toute seule et les 3 amis qui
oui,
partent.
C'est vrai, hein? Bref. C'est assez louche. Puis en fait, c'est ça, étais-tu en état ou quoi que ce soit, je ne sais pas trop, là. Finalement, une quinzaine de minutes plus tard, soit vers 3h15, 3h20 du matin, enfin les filles sortent de la chambre et reviennent à l'ascenseur. Surprise, Kenika n'est plus là. Elles vont donc l'attendre dans sa voiture. Ils sont allés la rejoindre parce qu'il était un petit peu impatient, mais elle n'arrivera jamais.
Vers 4h du matin, une des copines de Kenika appelle sa mère Teresa pour lui demander si Kenika est arrivée à la maison et aussi pour lui faire savoir qu'elle est introuvable à l'hôtel. Une heure plus tard, vers 5h du matin, les amis de Kenika rentrent chez la mère de Kenika avec sa voiture, la même qu'ils ont prise pour aller à la soirée. Ouais. La résidence des Jenkins est située à environ 30 minutes de l'hôtel. Le trio explique à la famille les derniers moments vécus avec elle, qu'elles avaient perdu sa trace à l'hôtel et qu'elles avaient quitté après l'avoir recherchée un peu partout. Leonore, la sœur de Kenika, appelle donc au 911 pour signaler sa disparition. Vers 5h45, toujours sans nouvelles, Teresa et d'autres parents et amis se rendent à l'hôtel Crown Plaza. Ils arrivent autour de 6h15 et tentent de chercher Kenika, ou du moins des indices pour la retrouver, entre autres en frappant aux portes des chambres même. Vers 7h15, totalement découragée, Teresa Martin, la mère, appelle la police de Rosemont depuis le stationnement de l'hôtel. Au cours de l'appel, le répartiteur lui suggère d'attendre quelques heures, de rentrer chez elle et de se détendre, de voir si sa fille est présente et de lui recommander de revenir voir la police s'il n'y a aucune trace de sa part le lendemain. Teresa exprime ses préoccupations, que sa fille a peut-être bu, qu'elle est peut-être en danger. Elle demande également pourquoi sa fille laisserait son téléphone sur place si elle va bien.
Oui, ben oui.
Donc c'est quand même assez louche, mais c'est vrai que cet appel-là au 911 est particulier dans le sens que t'as la mère qui est un petit peu, qui est très inquiète,
oui,
en fait.
Avec raison.
Et puis le répartiteur, lui, il ne voit aucun problème là-dedans. Mais faut dire que je présume que la police de Chicago doit avoir aussi beaucoup de chats à fouetter en pleine nuit comme ça.
Non, c'est clair, mais en fait, la particularité de Rosemont, c'est que c'est une municipalité de 4200 habitants, en fait. Mais cependant, ils sont situés à côté des aéroports. Donc, chaque jour, la police, les autorités ont à gérer plus de 100 000 personnes qui circulent sur le territoire. Mais malgré ça, j'ai l'impression que c'est une municipalité qui n'a pas tant de ressources au niveau de la police, parce que c'est toujours proportionnel à ton nombre d'habitants. J'imagine qu'ils ont peut-être un peu plus d'argent vu que c'est proche des aéroports. Malgré que
c'est possible.
Je sais pas si le répartiteur du 911, cependant, et c'est plus, régional, justement. Tu sais, est-ce que c'est un répartiteur de Chicago et pas nécessairement de Rosemont, là. Bref.
À 13h16, les autorités déclarent Kenika Jenkins officiellement disparue et un avis de recherche est lancé. Ce qui est quand même tard.
Ouais.
Il débute du même coup les fouilles à l'intérieur de l'hôtel. Ça aussi, c'est quand même tard, là. C'est plusieurs heures plus tard pour commencer à fouiller l'hôtel. C'est quasiment 12 heures plus tard. À 20h29, des policiers sont envoyés à l'hôtel lorsqu'un employé a signalé qu'un membre de la famille Jenkins frappait aux portes pour tenter de la trouver. Une fois arrivés sur place, les policiers demandent à visionner les vidéos de surveillance et la vidéo montrant Jenkins entrant dans l'hôtel. La police vérifie également la chambre 926 où la fête a eu lieu et une cage d'escalier à proximité et ne rapporte rien de suspect. Le personnel de l'hôtel continue à visionner les vidéos de surveillance. Les officiers quittent l'hôtel mais demandent à la famille de les contacter pour toute nouvelle information. Donc le lendemain, dans la nuit du 10 septembre à minuit 23 AM, un employé d'un hôtel se promène dans la cuisine vide au premier étage, s'installe dans le coin où se trouve le congélateur. Et juste à l'extérieur du champ de vision de la caméra, et puis il appelle un policier, selon ce qu'on voit sur la vidéo de surveillance. On découvre alors Jenkins dans une chambre froide à l'intérieur d'un congélateur de type walk-in, couché sur le côté, la tête en bas. Sa chaussure droite est disparue. Elle porte pantalon et veste en jeans sous laquelle elle porte un soutien-gorge uniquement. Son sein gauche est découvert lorsque le corps est retrouvé. Un ambulancier n'a détecté aucune activité cardiaque et mentionne que son corps est complètement gelé. La scène n'est pas très jolie. Kenika semble blessée aux pieds, elle est sale comme si elle avait été traînée par terre, ses vêtements sont tachés, ses ongles sont aussi sales comme si elle s'était débattue ou qu'elle avait agrippé des choses au passage. À minuit 48, C'est là qu'on confirme officiellement, en fait, le décès de Kenika Jenkins.
Une vingtaine de minutes plus tard, après l'avoir trouvée.
Oui. Vers environ 1h15 du matin, la police escorte la mère de Jenkins, qui se trouve à l'hôtel avec environ 20 amis et membres de la famille, pour l'informer de la mort de Kenika, parce qu'eux avaient regroupé vraiment un groupe là, de proches et de membres de la famille pour la rechercher.
Elle avait beaucoup de soutien, hein, mère, dans tout ça. Je dois le souligner. Là,
oui, vraiment.
C'est quand même impressionnant. Il y a
et
des
de
gens...
la communauté là, de la ville aussi.
Oui, vraiment. Il y a des gens plus seuls que ça qui vivent des drames.
Mm-hmm. À 4h52 du matin, le corps couvert de Jenkins est retiré du congélateur et déposé sur une civière. On voit tout ça là, sur les caméras de surveillance. Oui. Là, c'est des scènes assez difficiles à voir. Elle est emmenée dans la cuisine vide par un employé qui la recouvre d'une couverture et dégage sa tête et son visage. À 5h07, la mère et la sœur de Kenika sont escortées par les autorités et entrent dans la cuisine pour identifier le corps. Ils confirment bel et bien qu'il s'agit de Kenika Jenkins. Triste nouvelle pour toute la famille. La mort de Kenika va semer tout de suite la panique et l'indignement dans la communauté de Rosemont, mais aussi dans toute la communauté de Chicago. Comment le corps d'une jeune fille de 19 ans peut se retrouver au fond d'un congélateur dans une cuisine non utilisée d'un hôtel en banlieue de Chicago? C'est particulier quand même. Les médias vont s'emparer de la nouvelle et toutes les hypothèses vont être lancées. Il est clair pour la famille et les proches que Kenika a été victime d'un crime sordide.
Comme toute jeune adulte de son âge, Kenika est très attachée à son téléphone intelligent. Ses parents affirment qu'elle est presque constamment en communication avec eux. Elle les appelle souvent et ils suivent ses publications sur les médias sociaux. Elle et ses amis vont d'ailleurs publier toute la soirée, notamment sur Facebook et Snapchat, ce qui va grandement aider à consolider une chronologie des événements dans la soirée, comme plusieurs cas aussi qu'on a grâce aux réseaux sociaux. On est vraiment capable de retracer la ligne du temps parfaitement. Là.
Absolument. Puis cette histoire-là, celle de Kenika Jenkins, est une de celles où je pense que ça a contribué le plus parce que tous les amis publiaient au fil de la soirée. Oui. Là, on a vu plusieurs vidéos qui sortaient. Puis quand on vivait ça, quand on vivait cette histoire-là en direct, moi je m'en rappelle, en septembre 2017, eh bien, toutes ces vidéos-là refaisaient surface sur Internet et tout le monde essayait de regarder pour trouver des indices. Là. Donc, on a eu plusieurs visions de ce fameux party de chambre d'hôtel.
Non, exactement, dans les témoignages, c'est vrai. Hein? Puis tout le monde avait sa vision des choses et son interprétation. Par contre, certaines publications vont aussi semer une grande inquiétude et plusieurs personnes vont suggérer qu'elle y renferme des indices qui sont assez troubles. À 1h30 du matin, elle envoyait un texto à sa sœur, Léonore. Cependant, il y a d'autres sources qui disent qu'elle lui a plutôt parlé au téléphone. vers 1h30. Donc, et c'était le dernier moment que la famille a eu un contact avec Kenika, là. Donc, vers 1h30, ça faisait peut-être 1h15 qu'elle était arrivée à la fête. Puis c'est environ 1h30 avant de la quitter.
On a cherché très fort et on n'a pas réussi à trouver vraiment le contenu de ce message texte-là.
Non, exact.
Si c'était un message texte, là.
Oui, exactement, c'est ça. Aucune trace. À 1h36, un autre élément numérique, il y a un Facebook Live qui est diffusé sur le profil de Monifa. Monifa qui est une des amies qui a accompagné Kenika à la fête. Mais c'est Irene, une autre des amies qui était là, qui tient le téléphone à partir de la chambre en question là, qui est située au 9e étage. La vidéo qui a été visionnée maintenant par des millions de personnes, bien sûr, montre une femme à lunettes de soleil en miroir. C'est Irene qui parle à la caméra. Et de l'autre côté de la chambre d'hôtel, Jenkins, Kenika, elle semble être assise. Même certains disent qu'on peut la voir au travers des lunettes.
Mais ça reste encore assez... faut vraiment over-analyser. Là, oui. Quand on regarde dans les lunettes, parce que c'est particulier, Irene, elle est comme en mode selfie, donc elle se filme, elle filme son visage, mais elle a des espèces de lunettes un peu des années 90.
Oui, Back to the Future 2. Là.
Oui, c'est ça. Puis on peut voir des choses dans les lunettes. On voit clairement, je sais même pas dire si c'est un homme ou une femme, on voit quelqu'un qui porte un gilet rouge, mais c'est définitivement pas Kenika, parce que Kenika, elle avait une veste en jeans, des pantalons en jeans.
Sous-vêtements blancs.
Oui. Puis donc, ça semble pas être elle, mais ça se peut qu'il y ait quelqu'un un peu plus loin. Mais vous allez voir, on va revenir là-dessus. Mais tous ces éléments-là, ces preuves numériques-là vont être énormément analysées.
Oui, vraiment. La vidéo est longue. Hein? Elle dure environ 7 minutes. Irene se filme, elle parle au téléphone et on y voit et on y entend au moins 4-5 personnes facilement dans la chambre, peut-être même jusqu'à 6. Elle fume aussi un gros joint en enregistrant la vidéo. En l'analysant, on peut y entendre à un certain moment l'extrait suivant, en fait. Les phrases qu'on va vous dire, c'est une interprétation, en fait, de ce qu'on a entendu dans la vidéo, là. Je veux dire, c'est des bouts de phrases qu'on va vous dire à ce moment-ci.
Puis certains sont vraiment pas clairs. Certains, il faut vraiment analyser la vidéo un peu plus en profondeur pour vraiment entendre exactement la phrase. Là.
Oui,
il y en a qui sont très clairs, par contre. Mais vas-y, Seb.
Puis pris hors contexte aussi, ça donne ça.
Oui.
Bref, il y a un homme qui dit à un moment donné « Lay down, bro », donc « calme-toi, mec ». On entend aussi une femme qui dit « help me », une autre ou la même qui dit « let me go », donc « laisse-moi aller ». Il y a Kenika, à un moment donné, qu'on entend, en fait, qui dit qu'elle n'est pas ivre, « je ne suis pas ivre ». Monifa, aussi, qu'on entend, qui dit « you have to enjoy yourself », donc « tu dois t'amuser ».
Et ce dialogue-là, par contre, entre Monifa et Kenika, lui, il est vraiment un à la suite de l'autre, c'est-à-dire qu'ils se répondent, là.
Et elle lui répond « Mais oui, je m'amuse ». Et Monifa lui termine en disant « Mais ça paraît pas ». Il y a un autre homme dans la vidéo qu'on entend qui dit « Je m'en vais. Tu viens avec moi ou pas ?» Mais ça, on sait pas trop. Est-ce que tu sais à qui il s'adressait Parce que c'est pas clair, ça.
C'est
non
dur
plus.
À dire. Parce que dites-vous que tous ces petites phrases-là ou ces petits bouts de phrases-là qu'on entend, on est toujours sur la Facebook Live et on voit Irene en mode selfie. Donc,
oui,
on voit
ça.
Juste le visage d'Irene et on entend ça en arrière. Kenika qui dit « I'm not drunk ». Et son ami Monifa qui lui répond « Tu dois t'amuser. Ça paraît pas. On dirait pas que t'as du fun. » Tout ça. Donc, tout ça n'est pas clair. Puis « help me », en fait, à un certain moment donné, elles mettent de la musique. Là. Il y a vraiment dans la vidéo de la musique qui part vraiment très, très fort, sans doute venant de l'appareil Bluetooth qu'elles sont allées chercher auparavant. Et il y en a qui disent que c'est une musique de Chief Keef
oui, exactement.
Qui joue, qui est un rappeur de Chicago. Et puis, il y en a qui disent que le « help me » en question serait peut-être les paroles de Chief Keef à ce moment-là. Mais bon, il faudrait... ça laisse place à l'interprétation.
Non, exact. Mais oui, c'est la théorie qui est un peu, pas détruisait ça, mais ramenait à l'ordre le fait que le « help me » était autre chose. Il est clair, selon cette vidéo, que Kenika ne va pas bien malgré tout. Là. Elle est soit trop ivre, intoxiquée ou mentalement perturbée, mais elle ne semble pas avoir du tout de plaisir. Les rumeurs diront que Monifa était attirée par un des hommes, dont l'ami aurait été aussi attirée par Kenika, qui, elle, n'était pas intéressée. Donc, Monifa serait même accusée d'avoir leurré Kenika auprès de cet homme. On y reviendra là, lors des différentes théories, mais gardez ça en tête.
Ouais.
À 2h17, Kenika publie une vidéo sur Snapchat qui semble la montrer dans les toilettes d'un hôtel. Par contre, c'est une vidéo d'à peu près 50 secondes là, que je me souviens, et tout semble bien aller dans les toilettes. Là. Elle joue, elle est avec Monifa, puis ils disent pas grand-chose. En fait, elle rit, puis elle se prépare un peu devant le miroir. C'est une vidéo assez courte. À 3h20 du matin, Kenika a été vue. Ça, dites-vous là, que 3h20, là, c'est le moment où ils ont quitté la chambre d'hôtel, où ils se rejoignaient devant l'ascenseur, en fait, où est-ce que les amis sont allés retourner chercher ses effets personnels.
Le moment de la disparition.
Exact. Mais elle a été vue sur la vidéo de surveillance qui a titubé près de la réception de l'hôtel. Donc, elle a pris l'ascenseur par elle-même, puis elle s'est rendue au premier étage, selon la vidéo de surveillance. Un peu plus tard, les vidéos vont aussi révéler une autre vidéo de surveillance qui va être vraiment inquiétante, qui semble vraiment témoigner des derniers instants justement de Kenika, qui sont eux de 3h25, donc 5 minutes après qu'elle a été vue à la réception de l'hôtel. En fait, ça se passe de 3h25 à 3h32, c'est 7 minutes vraiment cruciales. La vidéo de surveillance, en fait, dont je vous parle, en a été vue que plusieurs heures plus tard. Et on voit là clairement un Kenika qui est chancelante, qui se promène dans les couloirs de l'hôtel. Elle percute les murs et même une rampe d'escalier. À un moment donné, on la voit, là, sa tête, elle part par en arrière. Tu sais, quand tu n'as même plus la force, ton cou a de la misère à soutenir ta tête quand elle marche. Ouais. Je suis même surpris qu'elle n'ait pas tombé plus que ça, du moins dans ce qu'on voit dans la vidéo. Elle semble dans un très mauvais état. Elle oscille d'un mur à l'autre. Elle tente de rester debout. Elle ne semble pas vraiment savoir où elle se dirige. C'est assez erratique, là, son comportement. Lorsqu'on regarde attentivement, on dirait qu'elle tient quelque chose dans sa main gauche, genre un morceau de tissu ou un mouchoir.
Ouais, quelque chose de blanc, ouais. Du moins.
Je n'étais pas capable d'identifier avec certitude. C'était vraiment bizarre. Tout au long de son périple, elle est seule et on y voit personne d'autre jamais, même pas d'ombrage ou quoi que ce soit. Là. Puis elle semble pas attendre quelqu'un ou parler à quelqu'un. Là. Elle suit son chemin vraiment. Elle a l'air seule. Là. On dirait pas qu'elle est... c'est ça, qu'elle suit quelqu'un ou qu'elle est attirée par quelque chose. On dirait vraiment que, je sais pas... Elle marche tout bonnement vers
oui,
quelque part.
Oui, puis souvent, elle revient sur ses pas. Oui. Elle fait des 360, elle tourne sur elle-même. Donc, elle est clairement perdue. Là. Moi, elle me fait penser vraiment à quelqu'un qui est sous l'effet... j'ai de la misère à dire quelqu'un qui est vraiment très ivre, parce que même ivre, on dirait que ivre, moi, j'aurais tendance à juste m'écraser au sol, en
non,
fait.
Non, c'est vrai.
Tu sais, au lieu de continuer, mais elle continue, elle marche longtemps.
Oui, elle descend les marches.
C'est quatre plans de caméra, puis elle est vraiment un peu en mode exploration. Là. Autant elle a de la misère à se tenir debout, puis en plus, la vidéo est prise dans un certain angle, ouais, où on a l'impression que... Le plancher penche, mais en fait, le plancher est bien droit, mais on dirait que ça accentue l'effet de débalancement. Mais elle a l'air de quelqu'un qui est vraiment sous l'effet d'une drogue plus puissante que de l'alcool. Moi, je pensais peut-être à du GHB ou quelque chose comme ça qui étourdit, là, ou qui te rend vraiment,
Ben, tu perds un peu, pas que tu perds conscience, mais tu peux perdre un peu ton jugement.
Oui,
mais
tes repères.
C'est ça, exact, mais c'est bizarre, elle a pas l'air paniquée non plus. Tu sais, elle court pas, elle a pas l'air affolée, on n'entend pas le son, mais elle semble pas non plus être en panique. On dirait que je sais pas quand tu dois perdre ton... Je me demande, tu sais, même du GHB, là, j'ai pas l'impression que c'est ça non plus.
Ça semble être vraiment un problème moteur, parce que sa tête doit être encore là, puisque vraiment, elle se dirige, elle semble avoir un parcours. Peut-être que... Je sais pas si elle cherche quelque chose, mais non, c'est très bizarre.
Non, vraiment. Dans le dernier plan de caméra de surveillance, elle entre soudainement dans une étrange cuisine vide au fond de l'hôtel. Et elle disparaît dans un coin et ne sera plus jamais revue. C'est justement le coin où ce qu'on vous parlait, où ce qu'un employé de l'hôtel l'a trouvé justement, qui était complètement hors caméra. Donc, les caméras de surveillance ne couvraient pas, c'est normal aussi, ne couvraient pas tous les angles. Donc, cette partie-là, elle reste nébuleuse. Hein. On sait qu'elle tourne, elle rentre dans la cuisine, mais après, on ne sait pas trop là, ce qui s'est passé. Il s'agira donc des dernières images de Kenika vivant. Thank you.
Regardons un peu plus amplement la fameuse scène de crime.
Oui.
De un, cette cuisine non utilisée, j'ai trouvé ça assez louche, moi, la première fois que j'ai vu ça sur la vidéo de
Pourquoi?
Surveillance. Ben, comment ça, elle se rend dans une cuisine qui est inutilisée dans l'hôtel? Il me semble qu'il devrait avoir des employés ou quelque chose comme ça.
Porte barrée.
Oui, en premier lieu, une porte barrée. Mais quoique, souvent dans les cuisines, c'est assez accessible.
Ouais,
c'est rare
raison.
Qu'il y ait des portes barrées. Mais moi, mon doute, c'était pourquoi il y a une cuisine non utilisée dans cet hôtel-là? Et parce que tout est vide. Il n'y a pas de...
Oui, c'est vrai.
Il y a
chaudron. Il n'y a
non,
pas d'ustensile.
Il n'y a rien qui fonctionne. Donc, apparemment que c'est un restaurant qui est en construction dans l'hôtel et qui devrait un jour ouvrir. Mais c'est vraiment un lieu qui est inutilisé. Et en revoyant cette fameuse cuisine inutilisée, les enquêteurs estiment que Kenika se dirigeait en direction du congélateur sur les vidéos de surveillance. Ceci dit, après avoir regardé plusieurs versions de la vidéo, on y voit un time code sur une des versions, donc on y voit les heures qui défilent. Ce qui est spécial, c'est que ce time code-là, il change subtilement. Il fait des bonds là, parfois de plusieurs heures. Ce qui est assez étrange, mais vous allez voir pourquoi. On va apprendre que ces caméras sont munies de détecteurs de mouvement qui les activent. C'est donc ce qui explique ce changement de time code. Par exemple, à un moment donné, on voit Kenika marcher et par la suite, ben, on fait un bond de 6 heures sur les images que les policiers ont diffusées au public. Donc, c'est quand même bizarre, toi, quand tu regardes ça avec tes yeux de public ou de pseudo-détective du web, tu te dis, ben là, c'est louche, là, on a manipulé le time code, mais non, c'est que les caméras s'activent vraiment avec un détecteur de mouvement.
Ouais.
Mais ça aussi, ça explique aussi que si quelqu'un voulait éviter, par exemple, d'être filmé, il est possible de le faire en connaissant les bons angles à éviter, en fait. Et là, tu t'assures que la caméra ne va pas te capter. On vous rappelle que pendant ce temps, ses amis devaient retourner à la chambre pour chercher ses affaires. Mais cette tâche a pris 15 minutes, ce qui me semble beaucoup, non? Je sais pas, hein, est-ce que ses affaires étaient beaucoup éparpillées à ce moment-là? Dur à dire. Mais selon les Facebook Live qu'on voyait à cette heure-là, il restait plus grand monde au party. Là.
Non, exact.
Les enquêteurs apprennent plus tard que la porte du congélateur dans laquelle Jenkins a été retrouvé, en fait, c'est un congélateur à l'intérieur d'une chambre froide. Cette porte-là se ferme automatiquement, mais de l'intérieur, le loquet de la porte peut être activé en poussant une poignée blanche et circulaire. La plupart des congélateurs ont cette fonction. Moi, personnellement, pour avoir travaillé longtemps dans la restauration, j'en ai vécu là, des situations dans des congélateurs comme ça, et j'ai eu le petit training de sécurité ouvrir la porte.
C'est sûr que c'est prévu pour que personne reste embarré dedans. Je peux pas croire.
Les internautes vont alors énormément remettre en question la théorie des policiers. Kenika aurait, selon eux, facilement pu en sortir. Par contre, c'est pas aussi évident que ça. Il fut confirmé que la lumière du congélateur était fermée lorsque le corps a été retrouvé, ce qui complique énormément la chose si on essaie d'en sortir, surtout si elle n'avait pas son téléphone avec elle comme source de lumière.
Oui.
Donc, s'il faisait noir, c'est clair que le bouton blanc,
plus dur à voir, là.
Tu le vois pas nécessairement.
Puis surtout dans l'état dans lequel elle semblait être, je trouve que ça aussi, là, ça doit être difficile de te repérer. Imagine, elle avait de la misère à marcher droit. Je comprends que tu ne vois pas, mais même en touchant, elle a l'air d'avoir complètement perdu son raisonnement. Donc, l'état dans lequel elle était n'a pas dû non plus aider l'état dans lequel elle était ne l'a pas aidé à sortir de ça non plus. Là.
Aussi, la forme du bouton et sa couleur blanche laissent penser que Kenika a peut-être tenté de le tourner comme une poignée, parce qu'on dirait un peu une poignée de porte quand on regarde les photos. Puis la couleur blanche, en fait, généralement, le code couleur pour ce genre de bouton, il est rouge. Dans les avions, dans les trains, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se pousse en cas d'urgence, généralement, c'est rouge. Là, vous allez me dire, il faisait noir, mais malgré tout, un bouton blanc comme ça, t'as peut-être tendance à le tourner. Puis surtout qu'elle était dans un drôle d'état, ben peut-être qu'elle a pas... pas penser à le pousser, là,
non,
parce que
non,
si elle avait fait, même par accident, si par exemple elle touchait le mur avec ses mains dans le noir, puis elle aurait accroché le bouton, elle l'aurait sorti, là, elle aurait ouvert la porte. Donc, très, très, très particulier. Il est donc possible qu'elle fût incapable d'en sortir, même si la tâche était très facile en soi, ce qui est encore plus troublant. Mais que se passait-il dans sa tête pour qu'elle se dirige vers le congélateur, les lumières fermées, en pleine nuit, dans une zone interdite de l'hôtel? Un autre élément très suspect. Pourquoi personne n'a remarqué Kenika sur les caméras, surtout si elles sont munies de détecteurs de mouvement? Ben, tu sais, nul besoin d'attendre qu'elle se rende dans le congélateur. Déjà dans le couloir, elle avait l'air presque en danger de la façon dont elle se déplaçait, là. Et aussi, tout comme dans le cas d'Elisa Lam, pourquoi les autorités ont révélé cette vidéo-là au grand public? C'est particulier vrai, hein? Aussi.
Ça amène pas de preuves. Il y a personne d'autre qui est sur les caméras.
On cherche pas à l'identifier parce qu'on le sait déjà. Elle a été identifiée.
Moi, je pense que c'est pour... on dirait que c'est pour...
Blanchir l'hôtel,
exactement. On dirait vraiment que l'objectif est là parce que dans le fond, ça fait juste prouver qu'elle n'était pas en état, que c'est perdu puis que c'est un peu de sa faute.
C'est un accident.
Un accident, exact.
Exactement. Selon d'autres rapports, justement, on apprend que les employés de l'hôtel sont peu nombreux et assez nonchalants, même s'il s'agit d'une grande chaîne d'hôtels. Car avant qu'on retrouve Kenika, ben on l'a dit plus tôt, plusieurs personnes ont parcouru là, des proches de la famille Jenkins, ils ont parcouru les couloirs, les raccoins de l'hôtel en cognant aux portes des chambres et apparemment qu'aucun employé de l'hôtel ou presque serait intervenu. Là. À un certain moment, ils ont remarqué, mais il n'y avait pas de résistance tant que ça pour se promener.
Ouais, c'est bizarre parce que j'ai regardé puis c'est l'hôtel a 503 chambres.
Oui, c'est un gros hôtel.
Fait, oui, c'est ça. Mais à la gang, c'est pas si long que ça, faire le tour de toutes les chambres. Tu sais, s'il était une vingtaine.
Ouais.
Tu sais, mais ça, puis je me demande s'ils ont connu, mais c'est vrai que le laxisme des employés, je pense qu'ils s'en foutent un peu. Hein. Puis je sais pas si c'est le fait que c'est de nuit aussi. Tu veux pas, il y a moins de trafic la nuit. C'est certain que l'hôtel emploie moins de gens aussi. Tu sais, je trouvais que sur cet aspect-là qu'on dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'employés, c'est aussi en pleine nuit, là, donc c'est peut-être pas anormal non plus sur cet aspect-là. Pas le fait qu'ils n'ont pas surveillé les vidéos et tout ça, mais sur le nombre d'employés, j'ai l'impression que c'est peut-être pas anormal.
Oui, le staff de nuit, évidemment, mais encore qu'ils n'aient pas remarqué les caméras de surveillance, c'est particulier
parce qu'ils le
savaient qu'il y avait un gros party. Ah, là, on va le voir plus tôt. Apparemment que le gérant est même allé cogner à la porte, selon une autre preuve dont on va discuter plus tard. Mais justement, sachant qu'il y a un gros party comme ça, qu'on est en fin de soirée, qu'il y a peut-être possibilité qu'il y ait, je sais pas moi, qu'il y ait des problèmes qui ressurgissent ou des gens intoxiqués, tout ça, ben il y a personne qui réagit en voyant cette pauvre fille-là déambuler toute seule dans les corridors. Et surtout qu'il y a des détecteurs de mouvement, je veux dire, ils doivent le savoir quand une caméra déclenche ou démarre.
Oui, ben oui, c'est vrai, il doit avoir un signal.
C'est particulier.
Chose,
peut-être qu'il y a le gardien de sécurité pendant c'est arrivé pendant un court laps de temps, hein, pendant ces 15 minutes-là, ou ces 7 minutes-là, plus précisément. Mm. Peut-être qu'il n'y avait pas de gardien de sécurité.
Non, effectivement.
Entre-temps, une autre vidéo de Facebook Live va refaire surface sur Internet. Cette fois-ci, un homme tient le téléphone dans les airs et filme la scène du party. Il le tient un peu en mode selfie. On y voit vraiment beaucoup plus de gens, là. Donc, il est fort possible que cette vidéo-là fût filmée avant celle de Irene, parce qu'on voit presque une trentaine de personnes.
Ah oui, les lits sont pleins, là.
Oui.
Les gens sont assis partout, là. La chambre, elle est full, là.
Ça a l'air plate un peu, par contre. Ils sont tous sur leur téléphone cellulaire.
Oui, ça, c'est vrai. Les parties d'aujourd'hui.
Ouais. On y voit clairement Kenika derrière, par contre. Et là, elle semble discuter avec quelqu'un. Elle a un verre à la main. Elle n'a pas l'air de tituber. Elle semble dans un état normal, du moins. À un certain moment, la vidéo est interrompue en raison du gérant de l'hôtel qui cogne à la porte et vient les avertir de faire moins de bruit. On le comprend parce qu'ils sont très nombreux dans cette chambre d'hôtel-là. Et selon certains membres du cercle d'amis de Kenika, il y avait environ 30-35 personnes à la fête et ils ont passé la soirée à boire et à fumer. Il faut pas l'oublier, généralement, c'est interdit de fumer aussi dans les chambres. Et eux, on les voyait, ça fumait des gros joints, des genres de gros cigares.
À ce moment-là, les médias sont en feu, hein. Vous savez, toutes les théories déchaînent. On ne sait pas vraiment ce qui est arrivé à Kenika. On n'a pas vraiment l'enquête de la police n'est pas terminée.
Et beaucoup de YouTubers aussi qui tombent sur l'histoire et qui couvrent l'histoire en direct, presque.
Ah oui, exact. Et qui reprennent ça. Ils font toutes sortes de contenus avec ça, pas très très véridique. Mais on n'avait toujours pas encore l'autopsie, en fait, qui est quand même un élément assez criant de vérité, ou du moins qui donne beaucoup d'éléments de preuve ou d'indice, du moins, ce qui a provoqué sa mort. Parlons-en justement de l'autopsie. Elle est arrivée un mois plus tard environ, après la mort de Kenika. Le bureau du médecin légiste du comté de Cook déclara que la mort de Jenkins était accidentelle et qu'elle a été causée par une hypothermie résultant d'une exposition au froid. incluant aussi une intoxication par l'alcool, bien sûr. Son taux d'alcoolémie, lorsqu'il a été testé, était de 0.112, qui était supérieur à la limite légale. À Chicago, c'est 0.08, comme au Québec. Mais je me dis que, crime, l'autopsie, au moment de l'autopsie, si son taux d'alcool était de 0.112, je veux dire, son corps a été retrouvé plusieurs heures plus tard.
Ben moi, je soupçonne
mais
que
si
oui.
C'est congelé, je me suis pas... En fait, je me posais la question. Le taux d'alcool, il a baissé avec le temps, bien sûr, fait qu'elle devait être encore plus intoxiquée, mais est-ce que quand tu congèles, ça le fige?
C'est dur de... On saura même pas... Tu vas nous décrire l'autopsie, oui. Mais on saura pas l'heure exacte de la mort de Kenica.
Non,
puis
que...
c'est évident que... Tout le temps où elle est vivante, en fait, ça a pu prendre plusieurs heures le décéder dans un congélateur.
Oui, ben oui.
C'est fait de manière naturelle,
oui,
bien sûr.
Exact,
ça n'a
oui.
pas été assassiné
ça,
avant.
On sait pas.
Mais en fait, tout le temps qu'elle est vivante, son organisme élimine de l'alcool.
Oui.
Fait que s'ils ont pris une prise de sang lorsqu'ils ont trouvé le cadavre près de 24 heures plus tard, ben c'est sûr qu'elle devait être plus intoxiquée au moment où elle est décédée. Mais de combien, ça c'est dur à dire. Mais c'était peut-être pas ça le problème, en fait. Je vais te laisser continuer.
Ouais,
il y avait d'autres choses.
Oui, exact. Il y avait aussi un médicament sur ordonnance qu'ils ont détecté dans le sang qui est utilisé pour traiter les migraines et l'épilepsie. Mais pourtant, elle ne souffre pas de ces maladies-là. Ça, là, c'est des éléments qui sont assez importants, en fait, parce que Kenica, justement, n'avait pas d'ordonnance pour ce médicament-là. Et je disais que mélanger avec l'alcool, comme beaucoup de médicaments, justement, ça fait un mixte encore plus explosif. Là. Donc, elle se l'est fait probablement donner durant la soirée. Hein. Vous savez, maintenant, les médicaments souvent sont utilisés aussi comme drogues de divertissement, des drogues récréatives par les jeunes.
Ce médicament-là, là, en question, Seb, là, c'est le topiramate, qui est souvent vendu sous la marque Topamax aux États-Unis et qui est rebaptisé dans la rue Dopamax.
Je connaissais pas ça, moi.
Oui, en fait, j'ai fait un peu de recherche là-dessus. Il est utilisé en majorité, un peu comme tu disais, pour traiter l'épilepsie, mais aussi certains cancers et la fibromyalgie. Évidemment, les migraines, comme tu le mentionnais, mais aussi un truc que j'ignorais, c'est que c'est un stabilisateur d'humeur et il peut causer de la perte de mémoire aussi lorsqu'il est utilisé sur une base régulière. Donc, ça peut aider certaines personnes qui souffrent de dépression, par exemple. Aussi, puis ça, en fait, j'ignorais, c'est encore plus surprenant.
Ouais.
Puis j'ai vu ça mentionné nulle part, en fait, dans les médias que j'ai regardés autour de l'histoire de Kenica Jenkins. Mais il est aussi souvent utilisé dans la rue comme suppresseur d'appétit, donc pour créer une forme de perte de poids,
ouais.
En fait. Et les boulimiques utiliseraient ça pour perdre du poids, en fait.
Ouais.
Donc, les jeunes filles, en fait, il y a toute une communauté de jeunes filles qui utilisent le Topamax pour maigrir, en fait, ce qui est pas une très bonne idée. Là. Donc, est-ce que c'est une hypothèse qui se tient? Est-ce que ça se peut que ce groupe de jeunes filles-là utilise ce médicament-là dans le but de perdre du poids? On sait jamais, hein, l'influence.
Ah oui, non, ça c'est clair.
Je savais pas, mais c'est aussi utilisé pour ça. Donc, outre cela, selon les sites de santé, ben, comme tu disais, c'est fortement déconseillé de consommer du Topamax avec de l'alcool. Ça peut causer de forts étourdissements, des problèmes de coordination, des pertes de mémoire et même des pertes de langage. Et il est fortement interdit de conduire ou de manipuler de la machinerie après en avoir consommé avec de l'alcool. Donc, c'est clair que ce médicament-là a vraiment créé un cocktail fatal pour Kenica et ça pourrait expliquer son comportement, du moins sur les caméras de surveillance.
Ah, vraiment? Les symptômes correspondent, du moins.
Oui.
Si on continue avec la scène de crime, il est noté que le congélateur où a été retrouvé Kenica affichait la température de 34 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire environ 1 degré Celsius, donc très près du point de congélation, lorsque le corps a été découvert, mais que la porte, bien entendu, était restée ouverte pendant 2 heures suite à la découverte du corps, ce qui laisse croire que le congélateur devait être beaucoup plus froid lorsqu'elle fut entrée dedans, en fait. Là.
Sans doute, parce qu'à 1 degré, ça ne doit pas être la température normale du congélateur,
non,
ça doit être
ben
avec
non.
les... depuis que la porte avait été ouverte.
Il est noté aussi qu'elle a eu une abrasion à la cheville et au pied droit, en fait. Une abrasion, c'est une lésion. Ainsi qu'une contusion à la jambe droite. C'est une ecchymose, une contusion, donc un gros bleu. Là. Elle a sûrement reçu un coup. Le côté droit, c'est justement le côté où elle a perdu son soulier. Le soulier était dans le congélateur, un peu plus loin, comme si elle l'avait enlevé avant de tomber. Lorsqu'on regarde les photos, ces blessures décrites comme mineures dans l'autopsie semblent quand même assez douloureuses, puisqu'on y voit du sang. Elle a dû se cogner sévèrement pour provoquer ses blessures.
Mm-hmm.
Ça aussi, je suppose que ça s'est passé, parce que c'est vrai que lorsqu'elle titube, elle se cogne un peu, mais j'ai pas remarqué qu'elle se blesse ou qu'elle se cogne fort ou elle est pas tombée non plus.
Non, moi non plus. Mais peut-être que tout ça est arrivé dans le congélateur,
ouais.
Par contre. Parce que lorsqu'il y a eu des photos, en fait, les photos de la découverte de la scène ont été publiées, en fait, je vous conseille pas d'aller voir ça, là, c'est très triste. On voit que le congélateur est pas dans un super état de propreté.
Mm.
Même qu'il y a des gros glaçons par terre.
Ouais.
Tu sais, des fois, un peu comme dans un congélateur de maison, là, il y a de la...
Du frima, là.
Du frima, ouais. du genre de givre là, qui ouais. s'accumule. Ben, imagine qu'il y avait ça un peu dans ce congélateur-là. Donc, ça doit être quand même facile de tomber, de glisser peut-être, puis de tomber.
Ah oui, c'est vrai. Ben oui, dans un congélateur, ouais. T'as raison.
Puis pour l'hypothèse du soulier, écoute, on en reviendra peut-être ouais. un peu plus tard. J'ai peut-être une petite idée là-dessus.
Okay.
Peut-être que c'est trop farfelu, mais il y a peut-être quelque chose qui pourrait expliquer ce soulier enlevé. Mmh. Là. Mais oui, elle a peut-être, ou peut-être que c'est dans lorsqu'elle est tombée ou dans sa panique que le soulier est resté accroché à quelque part aussi. Là.
Non, exact. C'est juste drôle que c'est le même côté qu'il y a eu toutes ces blessures. C'est,
oui.
c'est là que j'ai
oui,
un questionnement. Si on enchaîne, en fait, vers l'enquête policière, parce qu'il y a eu une enquête, bien sûr, qui a été faite par les autorités, la mère, Teresa, était, malgré qu'elle mettait beaucoup d'insistance pour que les choses se passent, à certains moments, elle était peu collaborative. Étrangement, dans les documents que les autorités ont dévoilés au public, dans un de ceux-ci, il est indiqué que justement, Teresa avait refusé au moins deux fois la demande de la police pour faire analyser le téléphone de sa fille. Pourquoi? Sa mère aurait déclaré aux autorités qu'elle avait déjà elle-même examiné le téléphone et qu'elle n'avait rien trouvé de suspect. Martin, en fait, la mère Teresa, a déclaré qu'elle envisagerait plutôt de laisser la police regarder le téléphone après que les agents aient déclaré qu'ils pourraient y effectuer une fouille plus approfondie. Ça, je comprends pas ce qu'elle veut dire par là, en fait. Moi, j'ai vraiment l'impression que les autorités sont meilleures qu'elles pour faire une recherche sur un téléphone parce que ils font pas juste rechercher, là. Ils peuvent faire des croisements de données. Eux, ils peuvent avoir les mandats pour chercher les SMS, des SMS effacés, des communications, etc.
Oui,
là,
les tours cellulaires, tout
oui,
ça.
Oui, exact. Ça s'arrête pas seulement à fouiller dans son téléphone. Et je trouve ça étrange qu'elle ait refusé ça. J'ai l'impression qu'elle a vu des choses sur sa fille qui ont pas nécessairement rapport avec la soirée, mais qu'elle ne voulait peut-être pas qu'il soit dévoilé au grand jour, ou du moins.
C'est possible,
que
oui.
ça sorte. Moi, c'est cet aspect-là. Parce que je trouvais qu'elle est quand même particulière aussi, sa mère. Durant l'enquête, en fait, il y a eu une douzaine de personnes qui ont été interrogées. La police, en fait, on fait beaucoup de scans. Ils ont réussi, un, avec les témoignages, mais grâce, entre autres, à cause des vidéos qui ont été publiées sur les médias sociaux, ils ont réussi à trouver ces 12 personnes-là qui trouvaient clés là-dedans. À un certain moment, il y en avait retrouvé que seulement 8, et ils ont réussi à trouver les 4 autres qui manquaient un peu pour compléter un peu la boucle des témoignages. Dites-vous qu'ils ont analysé les vidéos de surveillance de plus de 47 caméra, en fait, qui était située dans l'hôtel, ainsi que toutes les publications. La famille Jenkins a toujours été un peu suspicieuse et elle est convaincue que l'hôtel, elle, a gardé secret certaines vidéos pour justement se blanchir de ça ou du moins pas révéler certaines choses au grand jour. Elle a également déposé des documents juridiques visant à empêcher les propriétaires de l'hôtel de détruire toute preuve de l'affaire. Donc, elle avait une inquiétude là-dessus.
Mm-hmm.
La plainte affirme que le personnel de l'hôtel est au courant de la fête qui se déroulait dans la chambre d'hôtel, bien sûr, et que des cadenas auraient pu empêcher son entrée au congélateur s'il y avait eu des cadenas, justement, qui étaient présents, mais qui n'ont pas été utilisés. Donc là je vois que, tu sais, elle commençait déjà un début de... Pas de poursuite, là, parce que c'était juste un annexe, si tu veux, à la plainte. La plainte officielle, c'était vraiment pas dans la destruction des documents. Mais déjà là, elle commence à mettre le blâme sur un certain laxisme de sécurité
oui.
de l'hôtel.
Mais j'ai de la difficulté à ne pas la comprendre.
Ben, tu sais.
Parce que, en fait, c'est trop bizarre. Tu veux pas croire, en fait, que ta fille est morte dans des circonstances comme ça.
C'est horrible.
Puis, parce que là, je veux dire, qu'est-ce que... On arrive bientôt dans les théories, mais tout ça, c'est dur à expliquer. Puis pour une mère, c'est difficile de se faire une histoire logique autour de ça. Donc, puis c'est vrai qu'il y a une certaine forme de laxisme dans l'hôtel, de sorte que évidemment un quidam ne devrait pas être en mesure de se rendre jusqu'au fond d'un congélateur comme ça, puis même de tituber aussi longtemps dans les corridors de l'hôtel. Mais en même temps, c'est une situation tellement exceptionnelle, un peu comme Elisa Lam. Tu dis, OK, mais qui est-ce qui va monter jusqu'au réservoir vrai, d'eau sur le toit? En fait, ça arrive une fois sur un million, en fait. Et dans ce cas-là, tout ça, c'est dur à s'expliquer pour une mère.
Ah oui, puis comme tu dis, on peut pas la blâmer. On comprend sa réaction. Le 14 décembre 2018, là, c'est vraiment tout dernièrement, officiellement, il y a une poursuite qui a été déposée contre l'hôtel Crowne Plaza, soit justement à peu près un an après la mort de Kenica. En fait, la poursuite est en lien avec la négligence en lien avec sa mort. La famille demande 50 millions de dollars en dommages et la poursuite prétend que les accusés soient l'hôtel, soient les membres du personnel, ont fait preuve de négligence parce qu'ils n'ont pas sécurisé le congélateur ni procédé à une recherche appropriée lorsque Kenica a été porté disparu, un peu comme on vous parlait tout à l'heure.
Ça a été long.
Oui, c'est ça. Ça a été long avant qu'il agisse là. Toutefois, certains détails montrés par l'avocat de la famille semblent fautifs. Notamment la photo de la porte du congélateur qui ne semble pas être du même modèle que celui qui était vraiment utilisé ou localisé dans l'hôtel.
Ouais,
ça, c'est vrai. Oui, j'avais remarqué aussi.
L'avocat a montré en conférence de presse une immense photo du congélateur. Puis lui, c'est vraiment à la source, à la base de sa poursuite. Mais par la suite, il y a des gens, il y a même des YouTubers qui sont allés dans le congélateur.
Oui.
Il y a des gens qui ont fait le même parcours que Kenica. Et il y a plusieurs images et il semble vraiment que ce soit un congélateur avec la fameuse poignée blanche qui permet d'en sortir. Donc, c'est bizarre. J'espère qu'ils vont prendre... Je leur souhaite bonne chance dans leur recours judiciaire, mais en même temps, j'espère qu'ils vont avoir les bons outils pour avancer là-dedans.
Non, exact, parce que de mentir, ça va être démoli en cours, là, puis ils gagneront rien à ça. Là, tu sais, je trouve que juste avec ce qu'ils ont actuellement, ils ont déjà assez d'éléments pour avoir des dommages, c'est certain. Là.
Oui.
Mais tu sais, ne pas montrant la bonne porte, je sais pas, là, les juges sont pas si... On comprend que Teresa fait du mieux qu'elle peut pour stimuler les autorités. On la comprend, elle a perdu sa fille là, dans des circonstances vraiment bizarres, mais elle ne semble pas toujours utiliser les bons moyens pour s'y prendre. C'est ça, le mensonge, je trouve pas que c'est une bonne stratégie, personnellement.
Ou est-ce que c'est le manque de vérification? T'sais, est-ce que c'est du mensonge ou c'est juste qu'ils n'ont pas les bons faits?
Ah ouais, effectivement.
Mais c'est vrai que je sais que sa mère a été très présente dans les médias. Elle a accordé beaucoup, beaucoup d'entrevues. Souvent, elle a un ton très agressif. Ouais. Et parfois, on l'a vu dans plusieurs cas où les familles sont impliquées. Puis évidemment, on les comprend. On finit toujours par comprendre leur agressivité. Puis ça va jamais assez vite. En fait, les recherches pour résoudre un crime ou retrouver un enfant disparu. Mais parfois, c'est ça, là, on a l'impression que peut-être qu'elle nuit plus qu'autre chose à certains moments et c'est très triste de voir ça.
Effectivement.
Ça nous amène aux théories, Seb, parce qu'on a fait quand même assez le tour de la chronologie des événements. Ouais. On va vous tenir au courant s'il y a d'autres développements, mais jusqu'à présent, la thèse officielle, c'est une mort accidentelle. Ouais. Donc, elle se serait rendue volontairement d'elle-même là, dans ce congélateur-là. Et évidemment, elle serait intoxiquée, mais elle n'aurait pas eu, comme tu disais dans l'autopsie, il n'y aurait pas eu de traces de viol ou de traces de violence envers elle, à part les quelques blessures qu'elle a. Donc, c'est le verdict qu'on a jusqu'à présent. Mais par contre, il y a une tonne de théories alternatives. Il y en a qui sont très très originales, très créatives. Et il y en a qui font plus de sens. Et je pense que c'est le moment d'en discuter un peu.
Ouais.
Une de celles-là, c'est le trafic d'organes. Donc, la famille, en particulier sa mère, est convaincue que Kenica s'est fait avoir et s'est fait attirer dans le congélateur et que ce n'est pas un simple accident. Certains vont croire qu'elle était peut-être destinée au marché de trafic d'organes et peut-être que l'hôtel serait complice. On sait que plusieurs hôtels reçoivent des pourcentages ou des redevances du crime organisé pour devenir, mettons, des lieux d'échange de drogue ou encore des lieux de prostitution. Ouais. Tout ça, c'est bien connu. Donc, est-ce que ce serait possible que cet hôtel-là, le Crowne Plaza, soit aussi un lieu où on échange des organes humains? Donc, est-ce que c'est possible que Kenica fut une cible potentielle? C'est une bonne question, là. Mais un des éléments qui contredit un peu cette thèse-là, c'est qu'on la voit clairement tout le temps seule dans les vidéos de surveillance. Donc, il est difficile de croire qu'elle a été kidnappée ou même amenée de force dans le congélateur, là, à moins que, évidemment, le personnel de l'hôtel ait peut-être effacé les enregistrements et tout ça pendant le temps où... Ouais. Où ils ont commencé les recherches. Mais c'est une... je sais pas, qu'est-ce que tu penses de cette théorie-là, toi,
Sam? Ben, moi, j'y crois plus ou moins, en fait, le trafic d'organes, parce que, selon l'autopsie, il manquait pas d'organes. Donc, c'est déjà là, elle était peut-être été attirée pour ça. La personne, est-ce qu'elle a pas eu le temps de compléter? Pourtant, il y a eu un délai de quasiment 12 heures avant que le corps soit retrouvé. Pas 12 heures, mais un peu moins, là. Donc, je doute beaucoup de la théorie du trafic d'organes. Même, je comprends même pas comment que ça a pu arriver dans les théories, parce qu'il manquait rien à son corps. C'est cet aspect-là que je sais pas, c'est à moins que c'était prévu pour autre chose. Puis tu sais, est-ce que le congélateur est justement un bon endroit pour congeler le corps? C'est un peu macabre ce que je dis, mais tu sais, pour préserver les organes.
Il y a toujours ce mythe, cette légende urbaine qui persiste, comme quoi à un certain moment on se réveille dans un bain plein de glace.
Oui.
On a
oui.
perdu la carte. On est soit en voyage, soit dans une auberge louche ou dans un hôtel louche, et on se réveille et là tout d'un coup on se rend compte que oh, il nous manque un rein ou quelque chose comme ça. Le pire, c'est que c'est déjà arrivé pour vrai.
Oui. Il y a
donc
des
je pense
personnes,
que le mythe du trafic d'organes est très alimenté ici par l'aspect du congélateur.
Oui.
Comme quoi, ce serait sans doute l'endroit idéal pour aller reporter une victime. Ah, ou peut-être que Kanika, pour une raison qu'on ignore, ils ont pas, performé l'opération au grand complet.
Non, effectivement,
peut-être qu'ils ont été interrompus, je sais pas.
Tout est possible.
Mais effectivement, ça me semble une théorie un peu tirée par les cheveux. Je suis pas sûr que j'y crois, même si... si je peux croire qu'il existe un trafic d'organes, il existe des hôtels où il se passe des choses louches, là, ça c'est clair. Une autre théorie, en fait, c'est les fameux « amis » entre guillemets de Kanika. Et ici, ça peut faire du sens, cette théorie-là, je pense, à certains égards. Plusieurs vont blâmer les amis de Kanika, là, dont Irene et Monifa, pour ce qui lui est arrivé et aussi pour ne pas s'ouvrir plus sur les détails de la soirée et sur les circonstances de sa disparition. Parce qu'on sait qu'elles ont été questionnées, mais elles n'ont pas été très bavardes auprès des médias, ni très collaboratives avec les parents de Kanika, qui, eux, en fait, croient qu'elles ont quelque chose à voir là, définitivement dans la mort de leur fille. Une autre vidéo, d'ailleurs, là, un autre genre de Facebook Live va ressortir, et cette fois-ci, on y voit Irene sur le siège devant la voiture, encore en mode selfie, et on semble y voir deux personnes derrière. Mais là, c'est très subtil, c'est selon, encore une fois, quelques vidéos YouTube, là, et il y aurait deux personnes derrière, et on entendrait des genres de gémissements. Et Irene, ce qui est très louche, là, elle s'efforce de cacher l'arrière de la voiture avec des gestes de bras, tout en voulant en montrer un peu parce qu'elle se filme le live, là, visiblement. Là. Certains internautes vont spéculer que Kanika était derrière, en train de se faire violer sur la banquette arrière. Mais rien à propos n'a été prouvé. Parce qu'à un certain moment, il me semble qu'elle demande à l'homme « So you like that? » Donc, t'aimes ça ou quelque chose comme ça. Mais c'est très subtil. Là. Ça veut... Il y a rien vraiment... Il n'y a pas de preuves très identifiables de ces vidéos-là. Donc, c'est encore une fois, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais moi, je peux croire qu'il y a eu une histoire... je peux croire que Kanika, elle, peut-être qu'elle ne se tient pas avec les meilleures personnes. Là. Je pourrais croire même qu'elle a été peut-être même leurrée dans une histoire pour satisfaire un des amis de Monifa ou quelque chose comme ça. Là. C'est des histoires qui sont bien réelles dans la vraie vie. Et ça, je pourrais y croire. Là. Donc, c'est clair que pour moi, les amis de Kanika ont toujours un petit côté louche. On ne sait pas si ce qu'ils nous disent, c'est vrai. C'est peut-être des gens aussi qui ont autre chose à se reprocher, même si c'est mineur, donc puis qu'ils n'osent pas en parler plus. Ouais. Là, je spécule, moi aussi, là, je tombe dans le panneau. Mais c'est clair qu'il y a peut-être quelque chose dont on ne sait pas à propos de ses amis.
Non, t'as vraiment raison. Le 11 septembre, une femme a déclaré à la police de façon anonyme qu'elle avait vu Jenkins, Kanika, à la fête, et elle a déclaré qu'il y a une personne de son groupe d'amis qui serait un membre d'un gang de rue et qui aurait pu accepter 200$ en échange de sa mort. Elle ajouta aussi qu'elle a entendu quelqu'un appeler à l'aide, le « help me », qu'on vous parlait tout à l'heure, là, justement, qu'on soupçonne que c'est plutôt une chanson de Chief Keef. Cependant, cette piste-là a été écartée par la police parce que le témoignage est basé sur le fait, justement, qu'on l'entend dans une des vidéos du party qui a été diffusée sur Facebook. On entend tout le temps des trucs avec le 200$. Là, vous allez voir, il y a plusieurs théories. Finalement, ça serait une amie de Jenkins qui faisait juste parler qu'elle avait peur d'attraper une amende de stationnement de 200$. Et justement, que la chanson, c'était la toune de Chief Keef. Monifa aurait même préciser ce détail via un autre Snapchat, mais ça, je vous dis que la source, il y a eu beaucoup de vidéos qui disaient que Monifa s'était ouverte et tout ça, puis tu sais, en même temps, t'avais les médias qui disent qu'elle dit rien, fait que je suis un peu nébuleux, mais c'était vraiment des vidéos d'elle, fait que je sais pas jusqu'où moi-même j'ai pu me faire leurrer, mais bref, elle disait sur un des Snapchats que c'était plutôt un gars qui était présent au party, et qu'il voulait parier, il tripait sur Kenika, et que lui a parié 200$ qu'il allait finir la soirée avec elle. Donc, il y a beaucoup de trucs qui tournent autour du 200$. Et que une autre théorie farfelue en lien à ça, c'est que plutôt que Kenika aurait accepté un pari de Monifa de 200$ qui défiait quiconque de passer le plus de temps possible dans le congélateur, parce que ça a l'air qu'il savait qu'il y avait un congélateur au premier étage. Okay. Mais cette théorie-là, j'ai un certain... Ben, c'est toutes des théories, c'est des suppositions, mais elle, j'ai quand même un doute. Mais je voulais quand même l'amener parce que ça pourrait peut-être expliquer, malgré qu'elle a l'air tellement erratique, je pense pas qu'elle savait où est-ce qu'elle s'en allait, mais ça pourrait peut-être expliquer pourquoi elle s'en allait vers le premier étage. Kenika, est-ce que c'était pour un défi et tout ça?
Ou peut-être, mais c'est pas fou. Si ça a été un sujet abordé dans la soirée, peut-être que ça s'est revenu dans sa tête,
c'est ça.
Qu'elle, je sais pas, inconsciemment, elle s'est dirigée vers là, mais
peut-être qu'avec ses
amis. Je sais pas s'il avait vraiment voulu faire un défi, je pense qu'ils seraient tous allés près du congélateur.
Oui, c'est ça, tu sais.
Non, c'est un drôle de timing aussi, 3h du matin.
Oui, effectivement.
Mais c'est tellement difficile de comprendre qu'est-ce qu'elle vivait, elle, dans sa tête, là, pendant tout ce temps-là. C'est assez hallucinant.
Oui, parce qu'on fait juste interpréter des mouvements. Tu sais, dans le fond, on fait juste interpréter ses mouvements à elle. C'est pas évident.
Exactement. Pour certains activistes, là, on parle de plein de théories, là, mais il y a vraiment un laxisme de la part des autorités parce que Kenika était de race noire, en fait.
Ouais.
Donc, il y a aussi ce dossier-là a été soulevé à plusieurs reprises. Il y a eu des manifestations pour elle.
Oui.
Il y a eu plein de choses. On comprend, en fait, que cette communauté a été fortement ébranlée par des scandales policiers et plusieurs autres morts inexpliquées, là, notamment celle de Kendrick Johnson, dont peut-être on va parler un jour dans l'émission, là, qui est ce jeune étudiant qui a été retrouvé mort dans des circonstances tragiques, là, enroulé dans un tapis. Et puis, on soupçonne qu'il ait justement eu du maquillage de la part des policiers, qu'il y a du camouflage et tout ça. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Là, tu sais, on est après le Black Lives Matter. Il y a encore des scandales de policiers qui font du profilage de la communauté noire et des autres communautés. C'est vraiment pathétique. Mais c'est que je pense aussi que ces communautés-là ont ce bagage-là et sont un peu plus résistants et ils croient pas systématiquement les autorités. Puis je les comprends même temps. Donc, c'est un peu ce qui pousse aussi la mère de Kenika à vouloir les challenger beaucoup, puis à pousser vraiment pour que la vérité ressorte. Là.
Non, c'est clair, parce que, tu sais, Chicago ont beaucoup de problèmes de violence. Hein?
Oui.
Tu sais, Chicago, c'est une des pires villes où il y a du racisme et de la violence. Et même à ses funérailles, il y avait au-dessus de 1000 personnes en soutien
vraiment.
À Kenika. Et justement, tous les gens, les activistes et tout ça étaient là pour supporter la cause parce qu'eux, ils sont convaincus que le fait qu'elle était noire, un lien, du moins le moins de profondeur dans l'enquête ou du moins le moins de rapidité dans l'exécution.
Il y a des conspirations un peu plus loufoques aussi, Seb, qui refont surface, et ça, c'est assez intéressant. Il y en a une qui indique comme quoi là, ce ne serait pas elle sur les vidéos, qu'il s'agirait d'un déguisement. Donc, ils ont analysé vraiment, il y a des YouTubers, entre autres, qui ont analysé là, la vidéo de quand elle arrive vers minuit 13 avec ses trois copines, puis lorsqu'elle titube dans les corridors, et puis selon eux, elle n'aurait pas la même coupe de cheveux, même que ses jeans seraient troués à des endroits différents. Moi, j'ai regardé ça, mais Je suis d'accord pour les cheveux, mais en même temps, ouais. Elle est peut-être allée se repeigner quelques fois dans la soirée. On ne sait pas. Là. Donc, moi, ça me semble être elle. Là. Je sens pas qu'il y a eu de déguisement ou quoi que ce soit à ce propos. Donc, c'est assez bizarre, cette théorie-là. Et il y en a une encore plus, encore un petit peu plus originale ici, là, qui nous dit que même Trump serait impliqué. Il y aurait eu, en fait, une rencontre d'un comité de l'équipe Trump là, dans un hôtel pas loin, et que le propriétaire de l'hôtel où Kanika a été retrouvé est un certain David Friedman, qui serait aussi là, le nom d'un ambassadeur israélien lié à des rumeurs même de trafic d'organes. Mmh.
Mais ça, c'est vrai, en fait. C'est vrai. Du moins, pas la théorie liée à Kanika, mais l'histoire de David Friedman qui est liée à des trafics d'organes, c'est pas faux, en fait, là, cette théorie-là, qui est propriétaire de l'hôtel. Mais je trouve que la corrélation va quand même loin avec Kanika.
Oui, vraiment, là, que même Trump serait lié à ça.
Ça, c'est too much.
J'ai de la difficulté à croire comment une jeune fille de 19 ans comme ça pourrait être ciblée par...
C'est quoi l'intérêt, là?
Oui, exactement.
Toi, Émile, c'est quoi ton opinion, tes théories là-dessus? Là? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça?
Oui, c'est particulier. En fait, moi, je trouve qu'il y a plusieurs choses qui clochent dans cette histoire-là. Puis je te parlerai de ma théorie, mais au départ, en fait, toutes les questions que j'ai, en fait, là, puis tous les trucs que je trouve qui sont étranges, il y en a beaucoup. Là. De un, ben l'heure des événements. Je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses, mais tu sais, il était environ 6 personnes, je pense 3 gars, 3 filles, ou je pense que ben le groupe de Kanika était 4 filles, ouais. Mais il y avait 3 ou 4 gars avec eux vers 3h du matin, tout ça. Moi, ça me laisse croire qu'il y avait peut-être un processus de séduction en cours là, à cette heure-là, si la plupart des gens du party sont partis, qu'il reste quelques hommes, quelques filles, eh bien, moi, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être peut-être une forme de date ou peut-être un processus de séduction qui a mal tourné donc j'ai l'impression que peut-être qu'il y avait cet aspect-là là, d'impliquer dans la soirée, mais j'ai de la difficulté à aller plus loin que ça. Mais dans les autres, dans les choses qui clochent, ben moi, il y a le fameux 15 minutes pour aller chercher le iPhone et les clés pendant que Kanika attend dans le couloir. Pourquoi autant de temps? Pourquoi partir les trois et laisser Kanika seule, surtout en la voyant aller? Là, c'est clair qu'elle n'est pas dans un bon état. Pourquoi pas quelqu'un qui reste avec elle et les deux autres vont chercher le téléphone? Mmh. Et 15 minutes, c'est long là, pour
c'est
aller
long,
à une chambre d'hôtel. Peut-être que l'iPhone était très bien perdu, mais pour moi, ça me fait lever un drapeau, là. Aussi, qui est-ce qui devait conduire la voiture de la mère de Kanika ce soir-là?
Ça, c'est ma grande question.
Oui, parce que Kanika devait être manifestement trop intoxiquée pour prendre le volant. Donc, c'était quoi le plan? Donc, ça, c'est quand même louche. J'en ai parlé plus tôt. Pourquoi personne n'a vu Kanika le tituber sur les vidéos de surveillance? C'est assez particulier pour moi, là, ce manque-là. Pourquoi le congélateur était en fonction dans la cuisine vide? Sachant que le restaurant n'est pas ouvert, qu'il n'est pas en fonction, qu'il n'y a rien, il n'y a aucune autre machine qui fonctionne, pourquoi le congélateur, lui, il est à moins 4 degrés? Là?
C'est-tu une question de préserver le matériel? Je me posais la question, est-ce qu'il faut que le fréon... En fait, c'est même plus utilisé, le fréon.
Bonne question.
Mais je me posais, c'était pas plus technique au niveau du congélateur. C'est pas,
J'en ai aucune idée.
Je sais pas, je suis pas un spécialiste.
Et aussi, pourquoi... Il fut si long pour commencer les recherches et la trouver. Ils ont pris près de 24 heures pour la trouver à l'intérieur de l'hôtel. Ils ont commencé les recherches seulement le lendemain, là, en début d'après-midi. Donc, c'est quand même assez long, sachant que c'est sûr que peut-être qu'ils se disaient qu'elle était peut-être pas manifestement disparue à l'hôtel.
Non.
Mais en même temps, dans un délai de 15 minutes, elle peut pas être partie sur l'autoroute... faire du pouce, là, c'est...
Ben non.
T'es près des aéroports, t'es en banlieue, tu peux pas sortir puis aller au bar à côté, là, en 15 minutes, là.
Non, puis il l'aurait vu sortir, je veux dire, sur les vidéos de surveillance, il l'aurait vu sortir par la porte de l'hôtel.
Ben
il
n'y
a
oui.
pas tant de sorties que ça non plus.
Évidemment.
Je comprends qu'il y a des sorties de secours, mais quand même.
Donc, c'était clair même quand ils l'ont découvert, que ben ou même avant ça, quand ils se sont rendus compte qu'elle était perdue, c'était clair qu'elle était dans un radius de l'hôtel. C'était clair qu'elle était à l'intérieur, en fait. Là. Donc, très très particulier, ça. Aussi, comment est-ce qu'elle s'est procuré le Topomax, le fameux médicament, et quelle était son intention? Est-ce que, justement, cette gang-là utilisait ça pour se créer une genre de drogue, un peu comme on peut voir avec le lean, par exemple, aux États-Unis, où on mélange un dépresseur avec de l'alcool, un peu comme du GHB, puis ça te donne une certaine forme de dizziness ou ouais. quelque chose comme ça, ou est-ce que vraiment elle le prenait pour perdre du poids, en fait? C'est une bonne question aussi.
Moi, je me demandais même si est-ce qu'elle l'a pris volontairement. Oui. Est-ce qu'on lui a glissé dans c'est son verre comme du GHB? Je sais pas, là. Parce que crème, elle savait qu'elle allait conduire. T'sais, je te dis pas que les gens, surtout à 19 ans, là, t'es moins responsable. Mais il y a cet aspect-là aussi qui. Mm-hmm. Je suis pas sûr qu'elle était. Est-ce que c'était volontaire? On le sait pas, ça non plus, là.
Puis il faut pas oublier non plus là, que tout ça est escaladé très vite, hein, mm-hmm. à peu près deux, trois heures, mm-hmm. entre son arrivée à l'hôtel où elle semble bien aller et jusqu'à 3 heures. Et entre-temps, on l'a vu selon d'autres images du party diffusées mm-hmm. sur Facebook, elle semble être en état.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé là, dans peut-être la dernière heure et demie pour que vraiment là, tout escalade à ce point-là où elle se retrouve dans un état? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle a pris le topiramate? Bonne question, mais...
Le topomax.
Oui, c'est ça. Ouais, le topiramate étant le médicament, topomax étant la marque.
Oui, c'est vrai.
Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces heures-là? C'est vraiment, pour moi, très mystérieux.
Parce que ça prend toujours une demi-heure à une heure à peu près avant qu'un médicament fasse effet. Donc, il y a peut-être ce petit délai-là. Mais tu sais, si ça est arrivé vers minuit, quart et demi, boit un peu. Si elle se fait mettre ça dans son verre vers une heure et demie, 2 heures, là, c'est ça, là, vers 3 heures, elle devait... Puis juste le fait qu'elle soit partie de sa chambre sans sa sacoche, sans son cellulaire. Déjà que c'est des gens accro au cellulaire, on part jamais là sans nos. Sans... Mm-hmm. Fait que là, déjà là, à ce moment-là, c'est certain qu'elle était plus vraiment apte à ça. Là.
Ouais. Et ben tu sais, en fait, moi j'ai l'impression que la mort elle-même de Kenika, là, le moment où elle meurt, est un malheureux accident, là, pour en venir à mon opinion personnelle. J'ai l'impression qu'elle s'est rendue là par elle-même, qu'elle a probablement chuté dans le congélateur, mm-hmm. il faisait noir, il y avait de la glace au sol, et que malheureusement, elle est décédée d'hypothermie. Mais pour moi, le vrai mystère de cette histoire-là réside dans le contexte de la soirée, dans le sens que qu'est-ce qui s'est passé? Un peu comme Elisa Lam, un peu comme d'autres, mm-hmm. D'autres morts... triste comme ça et mystérieuse. Donc, pour moi, c'est vraiment... C'est quoi le contexte, tu sais? Peut-être que, justement, il y avait des gens qui avaient des plans qui ont mal tourné avec Kenika. Peut-être qu'ils ont essayé de la droguer. Ouais. Peut-être que, justement, ils ont essayé de la rendre inconsciente. Peut-être qu'il y avait un objectif de satisfaire un homme mm-hmm. qui était présent à la soirée. Donc, pour moi, le mystère, c'est plus comment elle s'est rendue dans cet état-là. De comment elle est décédée. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu me suis.
Oui, oui, très bien, oui.
Donc, pour moi, je n'ai pas vraiment d'idée, mais je pourrais croire qu'elle a peut-être été impliquée dans une sorte de leurre, pas nécessairement pour lui voler ses organes ou quoi que ce soit, avoir des relations sexuelles avec quelqu'un présent à la soirée ou quelque chose comme ça. Je pourrais croire qu'elle aurait été droguée. Là.
Ah, ça se peut, hein.
Et toi, mon cher Seb, as-tu une opinion sur le sujet?
Absolument, en fait. Puis même pour compléter sur ce que tu disais, je disais qu'il y avait beaucoup de... j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube qui mentionnaient que Monifa et Kenika ont eu plusieurs chicanes par le passé. Et j'ai vu même certains extraits Snapchat. C'était difficile à décerner, mais quand même, c'est revenu souvent.
Oui, ils se lançaient des petites pointes.
Oui,
hein.
C'est ça. Fait que ta théorie, en fait, du fait que Monifa est peut-être impliquée, pas dans sa mort, là, je suis certain qu'elle voulait pas sa mort, mais justement, il y a peut-être un jeu de séduction qu'elle a vendu, entre guillemets, son ami à quelqu'un d'autre. Ça j'y crois. Je suis un peu comme toi, là, le 15 minutes, je comprends pas du tout ce qui a pu se passer. Je comprends pas pourquoi aussi on n'a jamais montré les allées et venues des autres filles sur les caméras de surveillance sur le 9e étage ou même les autres étages, parce que j'ai lu des témoignages que Monifa a donné une autre explication des faits qui aurait descendu à une autre chambre au 3e étage à un certain moment parce qu'il y aurait eu une chicane. Mais tous ces éléments-là, j'ai jamais retrouvé ça nulle part ailleurs. Mais j'ai entendu ces éléments-là qui feraient que c'est pour ça que Kenika aurait descendu d'étage ou tout ça. Là. Okay. Ce genre de branle-bas de combat-là, le 15 minutes, c'était pas simplement pour aller à la chambre du 9e étage, mais c'était pour aller à une autre chambre. Il y a eu... C'est étrange. Ce qui pourrait peut-être expliquer le 15 minutes, mais il n'y a rien d'officiel à ce propos-là. Le fait que son sein gauche aussi était exposé... Je pense pas nécessairement qu'elle ait été abusée, parce que peut-être qu'en tombant, tu sais, ça. Puis surtout, si vous voyez les vidéos, vous allez voir, là, c'est juste un petit jacket de jeans qui est ouvert et c'est son soutien-gorge, là, tu sais, à peu près directement une mini camisole qui est là. Fait que c'est sûr que ça peut se relever facilement en tombant. Mais déjà là, je trouve que c'est un élément qui peut amener un certain doute si quelqu'un a voulu peut-être pas nécessairement abuser d'elle ou du moins minimalement. Je ne sais pas ce que tu en penses sur le sein gauche.
Ben, là-dessus, il y a Victoria Charlton qui avait une théorie intéressante comme quoi ça s'est vu souvent dans le passé des gens qui, fortement intoxiqués, quand ils sentent qu'ils vont mourir d'hypothermie, quand la mort approche puis que tu es déjà en situation d'hypothermie, tu ressens une certaine forme de chaleur. Donc, c'est arrivé à plusieurs reprises que des gens se soient retrouvés nus, par exemple, à l'extérieur, qui aient volontairement enlevé leurs vêtements. Donc, est-ce que c'est possible que Kenika soit allée dans le congélateur pour se sentir mieux, tu sais, d'une certaine façon, peut-être qu'elle souffrait de chaleur, quelque chose comme ça, qu'elle se soit sentie bien dans le congélateur, mais que malgré tout, plus elle gelait, plus elle a senti cette espèce de chaleur-là, puis qu'elle a voulu dégager sa poitrine, puis peut-être même enlever son soulier.
Non, je comprends. Même l'autre point, tu sais, le côté gauche et le côté du cœur, peut-être quand tu viens à souffrir, est-ce qu'elle voulait toucher son... Tu sais, parce que je sais pas comment ça se passe, la mort, dans le sens que quand tu souffres d'hypothermie...
Tu l'as jamais vécu, ça?
Non, pas encore. Je suis revenu. Mais non, je sais pas, est-ce que le cœur... Tu sais, est-ce qu'à un moment donné, par un moment de panique, elle voulait toucher son cœur? Est-ce que le cœur se met à débattre ou elle a voulu glisser sa main? Oui, c'est ça. C'est un des mystères. Aussi, est-ce qu'elle était consciente quand elle est amenée dans le congélo? Tu sais, je sais qu'on voit entrer, mais il y a une portion qu'on ne voit pas. Tu sais, toute cette portion-là, on ne la sait pas, la vraie. Comme tu disais tantôt, on ne sait pas la vraie heure de sa mort. Puis, dans un sens, oui, elle est morte par froid, mais est-ce qu'elle a été. Il y a ce bout-là là, qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé, puis ça m'intrigue, en fait. Ouais. Là, ça, c'est assez mystérieux. Tu sais, comme toi, là, ben, en fait, moi, je suis 50-50. Mais même, je te dirais peut-être plus 75 l'accident, 25 le full play, là, plus on en parle. Parce que on dirait que je suis pas capable de l'écarter à 100% qu'elle a pas été attirée vers là par quelqu'un. Un peu, on retombe un peu avec la théorie d'Elisa Lam. Hein? Dans les théories, on avait l'impression qu'elle avait été peut-être attirée par quelqu'un vers le toit, ou du moins vers le corridor qui menait au toit. On n'a jamais eu de preuve de ça. Ce qui pourrait peut-être expliquer qu'elle se dirigeait vers là, peut-être que quelqu'un appelait ou quelque chose comme ça. Là. Ça,
c'est vrai.
Ça, on le sait pas. Ça c'est un point que je soulève. Et en fait, le fait, l'accident des autorités, on en a parlé, mais c'est une petite ville. Là. C'est peut-être à cause de ça. Je sais pas. Comme je te dis, moi, je crois pas du tout au trafic d'organes. Là. Selon moi, c'est absolument n'importe quoi. Là. Il n'y a rien, il a été coupé de son corps. T'sais, je suis pratiquement convaincu que c'est un accident, là, même si j'ouvre une petite porte quand même qu'elle s'est faite leurrer, mais ça enlève pas toute la responsabilité de l'hôtel. C'est sûr que Kenika a une certaine responsabilité là-dedans. Là. C'est sûr que ça a été drogué contre son gré. Je comprends qu'à un moment donné, tu peux pas. Tu subis un peu ce qui t'arrive.
Oui.
Puis bon, elle a pas souhaité ça, mais c'est vraiment un malheureux accident qui est arrivé.
Et vous, chers distordus, venez nous dire ce que vous pensez de cette histoire-là, si vous pensez qu'il y a des conspirations derrière ça, que c'est un malheureux accident ou qu'elle a été victime d'un crime. On est facile à trouver. Vous pouvez le faire sur notre groupe de discussion Facebook et vous pouvez nous trouver facilement au facebook.com/distorsionpodcast. On a un groupe privé. Vous pouvez faire une requête et généralement, on accepte à peu près tout le monde. Vous pouvez nous trouver aussi sur Instagram au Distorsion Podcast, sur YouTube aussi Distorsion Podcast et sur Twitter Distorsion Pod. On est partout et au distorsionpodcast.com, bien évidemment, on veut savoir ce que vous en pensez.
Oui.
Et aussi, si vous voulez un peu de swag Distorsion, rendez-vous sur la boutique.distorsionpodcast.com. Vous allez voir, on a des t-shirts, des tuques, on a des crewnecks, on a des tasses de café aussi qui sont bien populaires. Donc, si vous voulez encourager le show, c'est une autre façon de le faire et on risque de sortir d'autres créations éventuellement. Et sinon, Seb, as-tu un mot de la fin pour nous ce soir?
Après avoir écouté un épisode de Distorsion, assurez-vous que tous vos organes sont toujours en place.
Touche-toi.